Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait ?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur ?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, l'année 2020 était une année cinématographique étrange, mais c'est pas pour autant eh bien, que les Césars n'ont pas été distribués ce vendredi 12 mars lors de la 46e cérémonie. Nous l'évoquerons comme chaque année par un résumé sonore donc, de cette cérémonie, mais toute cette émission ne sera pas consacrée aux Césars, mais bien à des films, n'est-ce pas Manu ?
Oui, Spell, film d'horreur récent, qui sort donc en VOD.
Quant à Guillaume, il nous parlera de Sacrée Sorcière, film de Robert Zemeckis, qui malheureusement eh bien, n'a pas eu l'honneur de sortir sur les écrans français. Ce sera du direct en VOD pour lui et ce sera l'occasion de jouer à un blind test avec la filmographie du réalisateur américain. 5 extraits à deviner. Mais on commence avec un homme récupéré par un couple de personnes âgées après un crash d'avion qui se croit sauvé. Pauvre homme, c'est Spell de Marc Tanderay.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va garder ça.
Après la maison au bout de la rue avec Jennifer Lawrence, Marc Tanderay continue d'explorer les tréfonds de l'horreur rurale en changeant toutefois de registre, s'inscrivant dans la lignée, peut-être de manière opportuniste, des réalisations de Jordan Peele ou du récent Antebellum. Alors, il n'est pas question de défendre une cause, mais de réfléchir sur l'intégration des Noirs dans la société américaine au cours de l'histoire à travers le genre horrifique, en partant d'un point de vue intéressant. Mark Eastwood incarne dans toute sa splendeur le modèle de réussite citadin des Afro-Américains. Il possède une luxueuse villa, un emploi à haute responsabilité, une femme charmante et cultivée, ainsi que deux adolescents très bien éduqués poursuivant des études dans le privé. Riche et ambitieux, il mène une existence rêvée. Mais un jour, ses racines le rappellent. Il apprend la nouvelle de la mort de son père qu'il n'a pas vu depuis des années. Il se rend accompagné de sa famille dans un avion privé qu'il pilote dans la région rurale des Appalaches pour l'enterrement. Suite à un accident que le spectateur suppose, il se réveille seul et sans repère dans une chambre vétuste. Incapable de marcher, il est soigné par un couple de personnes âgées dont les intentions ne sont peut-être pas si bienveillantes.
Qu'est-ce qui fait le bourre ? Relevez-vous enfin, il faut vous remettre au lit.
Où je suis ?
Dans mon petit atelier de couture au grenier. C'est la seule pièce convenable de la maison qui soit pas déjà occupée. Et maintenant, allez, il faut se lever. Allons.
Madame, je voudrais juste savoir comment j'ai... Et où est ma famille ?
Jeune homme, vous avez été cravaché et pas bouchonné. Alors allongez-vous avant que je me fâche.
Cette introduction rappelle vaguement Misery, sauf que Marquis n'est pas un écrivain adulé, mais un noir qui symbolise la trahison d'une race qui vit encore sous le joug des traditions et des superstitions coincées dans un siècle où ils avaient le statut d'esclave. Alors l'ambiguïté du dispositif s'avère réellement intéressant et payant durant la première partie où le cinéaste convoque le fantastique par allusion. Les rites ancestraux laisse planer un doute sur la véracité de ce qui se déroule sous nos yeux. Le scénario de Kurt Wimmer, réalisateur par ailleurs de Equilibrium, joue habilement sur l'ambivalence entre rationalité et croyance, nous plongeant dans un univers coupé du monde, citadin, retranché dans cette volonté de ne pas sortir du 19e siècle. Alors, Marquis est désigné comme coupable, il doit guérir non de ses blessures physiques, mais de son embourgeoisement citadin, de sa faute originelle, d'avoir su s'adapter dans un système moderne loin de l'endroit où il se retrouve piégé. Alors, la première heure décrit de manière remarquable le calvaire du personnage principal qui tente de comprendre ce qui lui arrive. Le film accumule des détails truculents comme ce clou gigantesque planté dans son pied, ce qui nous vaut une séquence particulièrement éprouvante où Marquise va le retirer sous nos yeux. Alors, les hôtes, derrière leur gentillesse, se révèlent dès leur apparition inquiétants, aveuglés par leur obscurantisme. Leur motivation de faire rentrer dans le droit chemin le pauvre séquestré instaure un sadisme particulièrement jouissif. Il faut dire que Loretta Devine, en maîtresse de maison, est assez géniale. Entre douceur et perversité, elle demeure le pivot du film, celle qui contamine l'atmosphère tendue de ce film retors, qui reprend à son compte les thématiques et codes de ce que l'on nomme la exploitation, en déplaçant l'univers des rednecks traditionnels au sein de la communauté noire avec un sous-texte, avec en sous-texte la problématique de l'esclavage. Metteur en scène habile, Mark Tanderey, démontre de véritables aptitudes esthétiques, notamment lors d'une séquence sur les toits magnifiquement éclairée où la caméra balaye l'espace avec une virtuosité insoupçonnable. Alors par d'amples mouvements de caméra avant, arrière, en plongée, contre-plongée, le cinéaste parvient à créer un climat là anxiogène et fascinant, raccord avec la découverte que va faire à ce moment le héros, premier signe où Spell bascule dans le surnaturel.
Vous allez finir par me dire...
Roulez, ça va, roulez, vite,
roule,
ça
roule.
Va
allez. Je roule, c'est bon, vous allez me dire ce qui se passe maintenant ?
Je sais pas, shérif. Sinon, je vous le dirai. Tout ce que je sais, c'est qu'ils m'ont retenu prisonnier.
Comment
ils m'ont séquestré. Héloïse et Earl, ils m'ont...
Héloïse et Earl,
oui,
c'est pas
oui,
possible,
Héloïse.
C'est qu'un couple de vieilles personnes.
Non, ils sont démoniaques, je vous le dis, shérif. Démoniaques, des sorciers jeteurs de sorts, des guérisseurs de village. Et ils ont des complices, ils ont cette brute de Lewis avec eux. Ils ont rassemblé toute une secte, ces salopards, shérif. C'est ce que j'essaye de vous dire.
Une secte ?
Une secte qui manipule les gens.
Qui manipule les gens ?
C'est ça. Et qui trône à la table ? Cette cinglée d'Héloïse. Elle les mène tous par le bout du nez.
Hélas, la suite est moins convaincante. Paradoxalement, lorsque le fantastique s'infile comme une donnée concrète, le film s'écroule un peu, perd de son intérêt et de son ambiguïté. Le récit retombe sur les rails du cinéma d'horreur consensuel avec sacrifice, gris-gris, poupée vaudou, miracle accompli et sort jeté. Alors surtout, Spell abandonne en cours de route, sans souci de réelle cohérence à dimension sociale et politique, pour ne proposer qu'un survival efficace et, dans ses meilleurs moments, assez malsain, s'achevant par un épilogue convenu. Alors c'est d'autant plus dommage que la réflexion sur la nature et la culture, la croyance et la rationalité avaient de quoi nourrir un grand thriller horrifique questionnant la place des Noirs dans la société américaine au regard de leur histoire. Alors en l'état, Spell reste ce que j'appelle un bon film de genre, d'une redoutable efficacité, remarquablement filmé et interprété par des comédiens convaincants, ce qui est quand même déjà pas mal.
Ce film Spell est sorti en VOD. On passe maintenant à une espèce de gimmick de l'émission, c'est-à-dire retrouver la cérémonie des Césars en résumé sonore.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
La 46e cérémonie des Césars s'est déroulée le vendredi 12 mars dans une salle non pas archi-comble mais au tiers plein, avec beaucoup moins de films à juger qu'à l'habitude, ce qui a permis sans doute à Dieu les cons de Albert Dupontel de rafler la mise à cette reprise. Après la polémique Polanski l'an dernier, c'est toujours une femme qui présentait la cérémonie. Les textes étaient écrits par un trio Blanche Gardin, Laurent Lafitte et Marina Foïs, et c'est cette dernière qui présentait la cérémonie sans fausse note, avec une certaine décontraction. Alors, il s'agit d'une compétition forcément imparfaite. Certaines imperfections sont assez flagrantes, notamment la remise du meilleur espoir à Jean-Pascal Zadi. Alors, s'il est vrai qu'il a fait un très bon film, tout simplement noir, sorti durant l'été 2020, méritait-il le trophée devant notamment l'excellent Benjamin Voisin qu'on a vu dans Été 85 de François Ozon, mais aussi dans La dernière vie de Simon ? Eh bien ça, je n'en suis pas sûr. Alors, à propos de ce film, d'ailleurs, La dernière vie de Simon, on se demande pourquoi il n'était pas nommé aux côtés des meilleurs premiers films, en plus sachant que son réalisateur a mis, je ne me souviens plus de mémoire, une dizaine d'années à écrire le scénario et à faire son film. Alors finalement, c'est Deux qui a remporté le César, et c'est finalement Mais Mignonne de Maïmouna Doucouré ne devait pas être très loin de rafler la mise également. L'ultra-nommé Emmanuelle Mouret n'a pas eu grand-chose. On lui laisse quoi ? Eh bien, le César de la meilleure actrice, donc pas à lui, c'est pour Émilie Dokken, comme chaque année. Donc voici un condensé sonore de la cérémonie des Césars, le cru 2021. C'est un peu plus long que d'habitude.
J'attendais ce moment avec impatience.
Une année de cinéma sans salle et sans public et un public sans film, pourquoi s'acharner ?
Mais votre imposture était manifeste.
On a hâte de vous retrouver.
Oh, que c'est romantique.
Alors, le César du meilleur espoir féminin est attribué à Fatia Youssouf, dans Mignonne.
Vous savez où passe l'esprit du mal ? Ce sont ces femmes dénudées.
Au cours de le mariage de ton père.
Regarde comme elle te va.
Tu es une femme maintenant.
J'aimerais dire un grand merci à Maïmouna Doucouré de m'avoir donné ma chance dans ce film qui est mon premier long métrage.
C'est tout, je vous remercie.
Et le César du meilleur espoir masculin est attribué à Jean-Pascal Zadi.
Bravo !
On est des frères,
oui,
ok,
oui.
Mais on est des frères que quand ça vous arrange.
Oh,
je sais très bien. Évidemment.
C'est fou.
Qui dans ce salon laisserait sa sœur se mettre avec un noir ? Qui ?
J'ai pas de sœur.
Je remercie tous ceux qui ont ouvert la brèche avant moi. J'ai envie de remercier Eusan Palsy, Isaac de Bancolé, Omar Sy, Maïmouna Doucouré, Déborah Lokoumouena, Alice Diop, Zita Enro, le bon vieux colonel Lajli et Fatia Youssouf.
Oh, on va pas s'enliser à chaque fois dans des formules de politesse.
Et le César du meilleur premier film est attribué à... deux.
T'as rien dit à tes enfants, maman. T'as pas osé. C'est ça?
Si on m'avait dit que ça serait arrivé il y a 10 ans quand je suis arrivé en France, j'aurais bien rigolé.
Au suivant.
Et le César du meilleur court-métrage est attribué à...
Qu'importe si les bêtes meurent, réalisé par Sofia Alaoui.
En tant que réalisatrice de court-métrage, je donne un élan si fort à vouloir nous battre pour nos films, pour premier long-métrage, à faire un cinéma indépendant, ambitieux.
Je sais de quoi il s'agit.
À l'Odéon et partout ailleurs, les occupations se poursuivent. Nous voulons vous rencontrer. Rejoignez-nous lors de nos agora, dans ces moments de débat, de partage et de joie retrouvée.
Je pense que vous êtes communiste.
Et le César du meilleur film d'animation long-métrage est attribué à Joseph, réalisé par Aurel.
Tu crois qu'il méritait ça ? Les fils de fer barbelés dressés pour laisser mourir de faim, de froid, de maladie, frappés, humiliés.
Régalez-vous !
Quel immense honneur de se retrouver là et de ce prix magnifique. Je tiens d'abord à avoir une pensée amicale pour Johan et Rémi, qui auraient pu être là aussi et qui auraient dû être là aussi.
Yes, very good.
Le César du meilleur documentaire est attribué à Adolescente.
Et le César du meilleur son est attribué à Yolande de Carcin, Jeanne Delplanque, Fanny Martin et Olivier Guanard pour Adolescente.
Vous êtes en quatrième ? Les profs, on n'est personne pour vous dire si vous allez réussir votre vie ou pas. Moi, j'en sais rien ce que vous allez être dans 10 ans.
On a eu une chance inouïe avec Adolescente. On est passé entre les gouttes. Donc moi, ce soir, je pense à tous les films dont on voit les affiches dans les salles de cinéma fermées, voilà, comme un vestige d'un ancien temps.
De quoi on parle ?
C'est important, un costume. On a l'air con quand on en a pas.
Ça défie l'imagination.
Le César des meilleurs costumes est attribué à Madeleine Fontaine pour La Bonne Épouse.
Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères.
Zay, 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 zay. Zay, 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 zay.
Madeleine n'est pas là, mais... Yolande va lire un petit mot.
Chaque film est une expérience particulière.
J'avoue que c'est encourageant.
Le César de la meilleure adaptation est attribué à Stéphane de Moustier pour La fille au bracelet.
Quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour ?
On était amis, meilleurs amis.
Vous affirmez donc, vous n'avez ni agressé ni tué Flora Dufour ?
C'est bien ça.
On ferme le cinéma, on peut l'entendre pour des raisons sanitaires, mais pas pour des raisons politiques. On a besoin d'une volonté politique forte pour que le cinéma continue d'évoluer, continue de grandir, avec d'autres médiums, avec d'autres moyens de diffusion. C'est possible.
Tu m'expliques la vie ?
Quand chez K.O. descendu des plateaux de Fognon, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi, est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort?
C'est vraiment de la pure création.
Alors, le César de la musique originale est attribué à Rhône pour La nuit venue.
J'ai pris beaucoup de plaisir à faire la musique de ce film.
Alors, on dit le montage. Bon, monter un film, c'est pas sorcier, suffit juste d'enlever tout ce qui va pas.
C'est la moindre des choses.
Le César du meilleur montage est attribué à Tina Baz pour Adolescente.
Pour toi, c'est à quel âge l'âge idéal pour le faire pour la première fois ?
N'importe quel âge, à vrai dire.
Je suis ravie de l'avoir pour un documentaire.
Ça me paraît évident.
En France, les femmes de plus de 40 ans représente 51% de la population et 8% des rôles. 8% des rôles, pas du temps de présence à l'écran. Là, on doit être à peu près à 2-2,5%.
Il n'y a qu'un communiste pour dire ou penser ce genre de phrase.
Et le César de la meilleure actrice dans un second rôle est attribué à Émilie Dequesne dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait.
Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi. Mais c'est vrai, j'avais pas d'attirance. C'était vraiment plus qu'impossible de m'imaginer être avec toi.
Pourquoi c'est impossible?
Parce que tous les gens autour de moi me voyaient bien avec toi.
Il est des rendez-vous que l'on reporte, mais qui, lorsqu'ils ont finalement lieu, sont évidents. Et la magie opère.
Je dois avouer que cette éventualité m'avait échappé.
Le César du meilleur film étranger est attribué à Drunk, réalisé par Thomas Vinterberg.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Thank you so much.
Et le vainqueur pour le meilleur acteur est Samy Boisgila.
Quand j'ai commencé le tournage d'un fils qui parle de la filiation, je venais juste de raccompagner mon père sur sa terre natale, dans laquelle il repose désormais.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Et le César de la meilleure actrice est attribué à Laure Calamy dans Antoinette dans les Cévennes.
Vous marchez avec un âne?
Pourquoi? Pas vous?
Ah non. On n'est pas les fous.
Il y a les actrices et puis il y a les rôles. Et celui-là, il était gigantesque.
Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ceci.
Et le César des lycéens est attribué à...
Adieu les cons, réalisé par Albert Dupontel.
Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile.
À ce point?
Oui, ça c'est normal. Donner ses données, reprendre ses volets.
Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste.
Quoi, on peut rien faire alors?
Ça peut prendre du temps.
Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé.
Si vous êtes pressé, on s'en sort plus.
Et le César des meilleurs décors est attribué à Carlos Conti pour Adieu les cons.
Le César de la meilleure photographie est attribué à Alexis Kaviachine pour Adieu les cons.
Le César du meilleur acteur dans un second rôle est attribué à Nicolas Marié dans Adieu les cons.
Madame Trapec, dans toutes les bruines à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour.
Et le César du meilleur scénario original est attribué cette année à... Albert Dupontel, Adieu les cons.
Pour la meilleure réalisation, Albert Dupontel pour Adieu les cons.
Le César du meilleur film est attribué à Adieu les cons.
Je crois qu'il est grand temps de s'en aller. Ainsi s'achève la 46e cérémonie des Césars. Bravo à tous les gagnants. Malheureusement, on ne peut pas se faire cette année la photo de famille qu'on aime tant et vous faire monter sur scène. Bravo à vous tous.
Excusez ma grossièreté. Adieu les cons.
This is Cinerama.
C'était donc le petit condensé sonore de la 46e cérémonie des Césars qui s'est déroulée donc ce vendredi 12 mars. On passe maintenant au blind test de cette émission. Mais avant de jouer, on va écouter la chronique de Sorcières, film de Robert Zemeckis qui a été privé de sortie dans les salles françaises. Et Sacrée Sorcière déboule sur les territoires en VOD.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Sacrée Sorcière est l'un de ces films qui auront eu le malheur de tomber entre deux confinements, couvre-feu et fermeture des salles lors de l'année passée. Il était pourtant parfaitement calibré pour sa date de sortie initiale, en octobre, moment idéal pour amener les petits et les plus grands se divertir devant un divertissement horrifique à l'occasion d'Halloween ou de la Toussaint. La réputation de son réalisateur, Robert Zemeckis, n'étant plus à faire, c'est donc frappé d'une double pénalité que les spectateurs doivent encaisser l'idée de ne pas découvrir son dernier film sur grand écran, mais chez eux, car définitivement privé de sorties salle par chez nous et en plus en différé. Sacrée Sorcière est une nouvelle adaptation du best-seller de la littérature enfantine signé par Roald Dahl et publié en 1983. Son succès et sa réputation jamais démentie, pas plus tard que l'année dernière, par exemple, il y a eu une nouvelle adaptation en BD par Pénélope Bagieu. Le cinéma lui avait déjà déroulé le tapis rouge en 1990 avec une version signée par Nicolas Roeg avec Angelica Houston dans le rôle de la méchante en chef. Le film, loin d'être parfait mais charmant en tout point, avait gagné son galon de petit film culte pour la jeunesse grâce aux superbes effets spéciaux du studio Jim Henson, le papa des Muppets. Autant dire que Zemeckis s'engageait dans quelque chose de plutôt compliqué pour arriver à surmonter cet impact culturel déjà bien fourni. Pour ce faire, il n'est pas venu seul et s'est composé une équipe tout aussi imposante à l'écriture et à la production. Il faut dire que l'idée de faire une nouvelle adaptation était déjà à l'étude en 2008 sous l'égide de Guillermo del Toro. Connaissant l'appétit du monsieur pour les projets ambitieux mais qui n'ont pas eu le temps d'aboutir, l'affaire en est restée là au profit de l'excellent Hellboy 2, mais renaîtra donc 10 ans plus tard avec le réalisateur que l'on connaît. Del Toro est désormais producteur et a entraîné un autre Mexicain hollywoodianisé avec lui, Alfonso Cuarón. Ce dernier va accompagner Zemeckis au scénario pour réadapter le récit de Roald Dahl au public du XXIe siècle. Malgré la volonté affichée de coller au plus près du livre, on quitte l'Angleterre des 60s pour l'Alabama des années 60, dotant le tout d'une petite connotation politique totalement absente de l'œuvre d'origine. Mais alors, la magie dans tout ça?
Information importante sur les sorcières.
Elles existent.
Les sorcières ne sont pas de vraies femmes. Ce sont des démons qui ont une apparence humaine.
Dans chaque grande ville, dans chaque petit village, elles vivent parmi nous. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que les sorcières détestent les enfants.
Si vous êtes un enfant ou êtes l'heureux ou non un parent d'un charmant bambin, sachez reconnaître une sorcière lorsque vous en croisez une. Car non seulement elles existent et sont parmi nous, mais en plus, ce qu'elles désirent le plus au monde, c'est d'éradiquer tous les marmots de la pire façon qui existe. Elles n'ont pas de balai ou de verrue au bout d'un nez crochu, mais cachent leur difformité sous des gants et des perruques. Elles sont chauves, comme votre serviteur, ont des griffes à la place des doigts, des dents acérées et se réunissent en comité pour suivre les indications de leur meneuse qui vient tout juste de trouver le plan ultime pour mener à bien sa croisade. Il se trouve que ce plan est entendu par un petit garçon et qu'il va tout faire pour contrer ce plan diabolique. Il va pouvoir compter sur sa grand-mère qui réchappa jadis des griffes de l'une d'entre elles et ils ne seront pas de trop tant la tâche va se révéler ardue. Car le petit garçon va être malheureusement victime d'un sort et va se transformer en souris. Dur de mener le combat quand on ne mesure plus que quelques centimètres, mais heureusement, la débrouillardise et l'espièglerie ne lui manqueront pas dans cette course contre la montre.
Peu importe qui tu es, ou à quoi tu ressembles, tant que quelqu'un t'aime.
C'est un spectacle extrêmement généreux et doté de tout le savoir-faire d'un homme qui n'a plus rien à prouver, si ce n'est son exploration toujours plus poussée et intéressante de la caméra virtuelle pour plus d'immersion. Alors s'il ne l'emploie pas ici pour des œuvres vraiment révolutionnaires comme The Walk, qui est probablement l'un des plus grands films en termes de mise en scène et d'élargissement de la grammaire cinématographique classique du XXIe siècle, c'est parce que Sacrée Sorcière se veut plus classique dans son traitement. C'est avant tout un conte pour enfants qui n'oublie pas d'évoquer comme l'œuvre originale l'acceptation de soi et le deuil. Alors certes, on ne tape pas dans le registre plus adulte de son bijou macabre « La mort vous va si bien » ou encore sa cultissime adaptation en série des Contes de la Crypte, mais Anne Hathaway ne ménage absolument pas sa peine pour incarner une méchante exubérante comme on en voit peu aujourd'hui, et se révèle délicieusement monstrueuse quand il le faut dans cet entre-deux de studio. L'indifférence générale procurée par l'exploitation sacrifiée ne va pas aider le film à sortir du lot, et c'est pourquoi il ne faut pas hésiter à lui donner une seconde vraie vie, en support physique ou des maths. Il reste ici et là suffisamment de magie et d'énergie pour passer un agréable moment à frissonner en toute quiétude sous l'égide du grand Robert.
Sacrée Sorcière, dernier film de Robert Zemeckis en VOD depuis le 17 mars. Ça nous donne donc l'occasion, cette sortie même un peu marginal, eh bien de parler de la filmographie du réalisateur américain. Environ 25 longs métrages et quand même des très connus. J'avoue que j'ai fait un blind test plutôt très ouvert et plutôt facile, j'imagine. Attention, donc 5 extraits. Eh bien, il faut découvrir évidemment le titre de chacun de ces extraits. Voici le premier.
On a besoin de 424 pieds. De bonnes cordes, plus encore 50, disons au cas où, ce qui est arrondissons à 475 pieds de cordes. Pour l'heure, on en est à une moyenne de 15 pieds par jour. En plus, nous devons le construire, et nous devons le stocker, nous devons le mettre à l'eau. Ah, ça va être juste. On n'a pas beaucoup de temps. Mais on vit et on meurt par le temps, n'est-ce pas? Et on ne se permet jamais le péché de tourner le dos au temps.
Bah, je pensais que tu trouverais tout de suite.
Non.
Il peut y avoir un indice, c'est la voix française d'un grand acteur américain.
Mais ça
qui est Tom Hanks.
Ah ouais, c'est Forrest Gump? Non, ah c'est pas de Forrest Gump. Non,
là, il fait une référence au temps. On voit qu'il est assez embêté quand même.
C'est un film que j'ai pas vu, de toute façon.
C'est un film sorti en 2000. Un employé de la FedEx qui est victime d'un crash d'avion au-dessus du Pacifique. Il s'échoue sur une île déserte. Personne ne vient à son secours.
Oui, c'est seul au monde, oui.
Et il va devoir donc s'adapter à son nouveau milieu.
Eh bien, je n'ai jamais vu, en fait.
Ah, ben voilà.
C'est pour ça que je dis que je ne suis pas un spécialiste de Zemeckis. J'ai dû m'arrêter en fin 90.
Tu vas avoir quelques noms à donner quand même. Donc, film avec évidemment Tom Hanks, 1,7 million d'entrées en France. Voici le deuxième extrait.
Personne ne me dit que j'ai les foies.
Et alors, on en finit tout de suite.
Pas maintenant, patron, le Marshall a nos armes.
Ouais, c'est ce que je disais, on en finit demain.
Demain, on est à Pine City, c'est qu'on attaque la diligence.
Bon, alors lundi, on fait quelque chose lundi.
Non, on fait rien lundi, c'est bien, tu peux le buter là.
Je vais revenir lundi, je te retrouve ici. Et on réglera ça. Là dehors, dans la grande rue, devant le Saloon Palace.
Ça me va. À quelle heure? Un duel au soleil?
Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Lundi matin, 7h.
Non, 8h. Je trouve la peau des gens après mon petit déjeuner.
Alors celui-ci, tu l'as vu.
Retour vers le futur 3.
Film de 1990, évidemment, avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Marty McFly apprend par une lettre vieille de 100 ans que son vieil ami Doc est resté prisonnier du Far West. Nous y étions dans cet extrait. Et il est sous la menace de Buford Molos Tannen qui s'est juré de le tuer. Et il n'a que 5 jours pour retrouver Doc et le ramener vivant vers le présent. 1,6 million d'entrées, c'est un tout petit peu moins que Solo Monde finalement. Troisième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Robert Zemeckis.
Il y a plusieurs mois, j'ai eu la formidable chance de tomber sur un plan du conseil de la ville. Un projet de construction aux proportions épiques. Il s'appelle ça, autoroute.
Autoroute? C'est quoi, autoroute?
8 voies d'asphalte miroitantes conduisant jusqu'à Pasadena. Rapide, sûre et fluide.
De quoi faire des embouteillages, une chose du passé.
Alors c'est pour ça que vous avez tué Acme et Maroun? Pour cette autoroute?
Je comprends pas.
Bien sûr que non, vous n'êtes pas visionnaire. Mais moi, je vois un endroit où les gens pourront aller et venir depuis l'autoroute. Aller et venir, venir et aller toute la journée et toute la nuit.
Trouvé.
Et c'est Roger Rabbit.
Enfin, qui veut la,
qui
peau,
veut la peau de Roger Rabbit, oui.
Quand même, disons le titre correctement. 1988 pour la sortie de ce film avec Bob Hoskins. Autrefois star du cinéma d'animation, Roger Rabbit, le lapin blanc, est fortement préoccupé hein, pendant les tournages depuis qu'il soupçonne sa femme, la sublime Jessica Rabbit, eh bien, de le tromper. Et le studio qui emploie Roger décide d'engager un privé, Eddie Valiant, pour découvrir ce qui se cache derrière cette histoire bien plus complexe qu'il n'y paraît. 5,8 millions d'entrées en France, autant dire que, eh bien, il y a de nombreuses personnes qui l'ont vu ce film. Quatrième extrait.
Quand je vous ai rencontré, j'avais peine à croire qu'il puisse exister un tel enfoiré de poivreau arrogant.
Oh, sérieux?
Ouais.
Oh, merci.
Mais j'ai fait des recherches, commandant Whittaker. J'ai lu ce que les experts ont conclu. Et je peux vous dire que je suis impressionné par votre talent. La FAA et le NTSB ont choisi 10 pilotes, les ont mis dans des simulateurs, ont recréé les conditions qui ont conduit l'avion à piquer vers le sol. Et savez-vous combien ont été capables de poser leur appareil? Il n'y en a pas un. Tous les pilotes se sont crashés en un rien de temps. Et ils ont tué tout le monde à bord. Il n'y a que vous qui pouviez le faire.
Chouette.
Trouvé.
Et c'est Flight,
oui,
avec Denzel Washington.
Oui, tout à fait. Qui interprète Whip Whittaker, pilote de ligne chevronné qui réussit miraculeusement à faire atterrir son avion après un accident en plein ciel. L'enquête qui suit fait naître de nombreuses interrogations. Salué comme un héros après le crash, eh bien, Whip va soudain voir sa vie entière être exposée en pleine lumière. Et on l'a vaguement compris, il y a une histoire d'alcool. Flight, c'est un film de 2012 qui n'a pas forcément très bien marché en salle par rapport à tous les autres films dont on a déjà parlé, puisque c'était seulement 574 000 spectateurs pour le voir, ce film. Allez, dernier extrait de ce blind test.
Vos chaussures doivent être très confortables. Je pense qu'on peut marcher toute la journée dans des chaussures comme ça sans rien sentir. J'aimerais avoir des chaussures comme ça.
J'ai mal aux pieds.
Maman disait toujours qu'on peut savoir beaucoup de choses sur une personne en voyant ses chaussures. Où elle est allée, où elle va. J'ai porté des tas de chaussures. Je parie que si j'y pense très fort, je pourrais me souvenir de ma première paire de chaussures.
Ça a été trouvé.
Forrest Gump.
Oui, je me suis dit, je le mets pas. Finalement, je le mets quand même. C'est un gros clin d'œil à la filmographie de Zemeckis. Film avec Tom Hanks, encore une fois, adaptation du roman du même nom de Winston Groom. Quelques décennies d'histoire américaine des années 40 à la fin du XXe siècle. À travers, eh bien, le regard et l'étrange odyssée d'un homme simple et pur, nommé Forrest Gump. C'est 6 Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleur acteur et effets spéciaux, parce qu'il y a des effets spéciaux, effectivement, puisqu'il rencontre un certain nombre de personnalités dans ce film, et donc que les images sont quelque peu truquées. Quasiment 4 millions d'entrées en France, il y avait une suite qui était prévue, mais les événements du 11 septembre eh bien, ont rendu le projet caduc, donc on ne verra jamais la suite de Forrest Gump. Ainsi s'achève le blind test autour de la filmographie de Robert Zemeckis, et on en profite pour aussi achever l'émission.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre,
comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
La semaine prochaine, Manu, t'as décidé de nous parler d'un film qui est sorti il y a un petit moment déjà, mais qui a bien marché.
Oui, surtout, c'est dommage de ne pas en parler. Hein. C'est The Nest de Sean Dorkin, qui a raflé quasiment tous les prix à Deauville l'an dernier, donc en 2020.
Un film avec Jude Law, donc ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial Jude Law.